Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice ce soir avec Paul Magnette, homme politique et professeur de sciences politiques. Je reçois ce soir un invité un peu particulier pour parler de notre sujet qui sera la crise ou la transformation du politique. Un peu particulier parce qu'il est à la fois observateur attentif et bien informé du politique de par ses fonctions de professeur à l'ULB, à l'Université Libre de Bruxelles, et auteur de nombreux ouvrages et notamment un livre sur Judith Sklar, une philosophe du politique américaine, un livre intitulé « Le libéralisme des opprimés » qui est publié dans la collection « Le bien commun » chez Michelon, une collection que j'ai l'honneur de diriger. Mais mon invité est également un homme politique de premier plan dans son pays, la Belgique, en étant maire de Charleroi, président du Parti Socialiste, après avoir été ministre fédéral et ministre-président du gouvernement Wallon. Et enfin, Paul Magnette a été le co-formateur avec Alexander De Croo du dernier gouvernement belge. Bonsoir Paul Magnette.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, sur votre itinéraire, vous voulez que je vienne rappeler très très brièvement un mot, Paul Magnette ?
Oh, c'est un itinéraire qui finalement n'est pas tellement anormal en Belgique et en particulier dans ma formation politique, le Parti Socialiste, parce qu'il y a eu avant moi pas mal d'universitaires qui sont à un moment donné entrés en politique. C'était le cas de mon prédécesseur, Elodie Roupaud, qui est un professeur de chimie, docteur oui. en chimie. C'était le cas de Guy Spitals, qui était un professeur de sociologie à l'Université Libre de Bruxelles. C'était le cas de Philippe Moreau, beaucoup d'autres. Donc je dirais pas que c'est une tradition belge. Je voudrais pas qu'on pense que c'est un gouvernement de professeurs, comme on disait de la République de Weimar. Mais c'est en tout cas pas un parcours atypique.
Mais il y a une différence entre la chimie et la science politique, Paul Magnette.
Oui, il y a une différence et je n'avais jamais pensé un jour faire de la politique, enfin faire de la politique en tout cas active, parce que je crois que quand on fait de la science politique et quand on écrit sur la politique, d'une certaine manière, on fait de la politique, en tout cas on participe au débat public. Et puis des circonstances très particulières ont fait qu'un jour on est venu me chercher pour 18 mois et que 15 ans après je suis toujours là, mais voilà.
Parce que vous apparteniez à une famille de gauche.
Oui, j'appartenais à une
famille politique de
gauche,
une sensibilité
de gauche.
Je dirais
de gauche de la première génération, si on peut dire, puisque mes parents, ma mère était d'une famille plutôt catholique, traditionnelle, mon père d'une famille libérale, modérée, mais tous les deux ont été pris dans le tourbillon de mai 68 et se sont engagés très fortement à gauche après mai 68 et tout au long des années 70, mais plutôt dans l'action sociale de gauche. Mon père était un médecin généraliste qui s'était établi volontairement dans les quartiers populaires et multiculturels pour travailler au plus près des gens qui vivaient les plus grandes difficultés sociales. Et ma mère était avocate et elle aussi s'était établie dans ces mêmes quartiers populaires pour aider les gens qui avaient du mal à faire valoir leurs droits, à pouvoir les faire valoir. Et ils ont plutôt milité dans une gauche associative, dans des mouvements comme la Ligue des droits de l'homme, etc., que dans des partis politiques. Mais j'ai effectivement baigné dans tous les grands combats de gauche des années 70 et 80, ce qui est une expérience humaine, personnelle et familiale formidable.
Alors on va y revenir bien sûr, mais donc commençons par quelque chose qui nous préoccupe tous où qu'on soit dans l'Amérique du Nord, qu'on soit en Europe, en Grande-Bretagne, en France ou en Belgique, c'est bien sûr la crise des démocraties, ou le malaise, mais je n'aime pas le mot crise parce qu'il est d'emblée défaitiste. Parlons plutôt d'une transformation profonde de nos démocraties, Paul Magnette. Quelle cause vous pourriez attribuer, énumérer de cette transformation de nos démocraties?
Je pense d'abord, Antoine Garapon, que vous avez raison de parler de transformation, ou si on parle de crise, de considérer la crise non pas comme un état normal, ce serait excessif, mais comme un état récurrent dans le monde en général et dans la politique en particulier. Quand on regarde l'histoire de la démocratie dans la longue durée, la démocratie parlementaire telle que nous la connaissons, c'est finalement un phénomène encore très jeune. C'est un phénomène qui a commencé à se matérialiser il y a à peu près deux siècles. Le suffrage universel Dans la plupart des pays européens, il y a à peine un siècle, le suffrage vraiment universel, c'est-à-dire qui concerne autant les femmes que les hommes, il y a une bonne cinquantaine d'années. Donc c'est encore ce système démocratique représentatif, parlementaire ou présidentiel, c'est encore un mode d'organisation humaine très très récent. Et quand on le réinscrit dans la longue durée, au sens de Braudel, ben, on s'aperçoit que finalement, elle a déjà connu cette démocratie parlementaire pas mal de transformations dans le cours de sa propre histoire. Et ça permet de relativiser ce discours un peu alarmiste sur la démocratie en crise.
Alors, ce qui me frappe, moi, c'est quand je regarde l'histoire de France, celle que je connais le mieux, j'y vois une opposition bien structurée entre, par exemple, les légitimistes, les orléanistes, entre les républicains et les monarchistes, entre la droite et la gauche. Et donc, j'y vois une structuration à la fois des sensibilités, des projections dans l'avenir et puis de l'électorat. Or, cette opposition structurante de la politique semble s'effondrer ou s'être effondrée au cours des dernières décennies, assez récemment finalement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une structuration dominante qui change de forme à travers le temps, mais qui se perpétue. C'est le propre des structures, c'est d'être permanent, mais en métamorphose constante. Ceci étant, moi, ce qui me frappe le plus, on parlait tout à l'heure de désimplification, ce qui est un terme un peu compliqué, mais quand on replace la politique dans la longue durée ou la moyenne longue durée, c'est le retour à une certaine forme de complexité politique qui était l'état normal. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on assiste à une forme de centralisation du pouvoir dans le cadre étatique, et puis il faut attendre quand même le XIXe et souvent le XXe siècle, même pour voir les frontières étatiques vraiment se stabiliser. C'est seulement au XXe siècle que les espaces culturels s'homogénéisent avec une vraie unification linguistique et médiatique et la construction d'un vrai espace public. Et c'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle que des systèmes de partis qui organisent la conflictualité politique de manière relativement simple, presque binaire dans des systèmes majoritaires comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, l'Australie et les pays d'influence anglo-saxonne, mais encore plus complexes dans la plupart des autres pays européens, même ces structures-là sont finalement très récentes. Elles datent au mieux du débat du début du XXe siècle. Et donc qu'à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, tout cela soit un peu remis en cause, que les frontières étatiques aient moins d'importance, deviennent plus poreuses qu'autrefois, que la souveraineté soit davantage mutualisée, que au sein de l'espace national homogénéisé, on assiste au retour d'identités régionales, locales, de nature diverse, que les systèmes de partis soient bouleversés par des enjeux comme la mondialisation ou la construction de l'Europe. Tout ça, finalement, est relativement normal. Mais on a un peu fait d'un certain type de la démocratie, la démocratie
de référence,
d'alternance un peu binaire, un espèce d'idéal type, et tout ce qui ne ressemble pas à la démocratie des années 50, 60, 70, de cette période d'un espèce de 30 glorieuses de la démocratie parlementaire aussi, nous paraît anormal ou nous paraît pathologique, alors que c'est plutôt ce moment-là de la politique qui a été une parenthèse, je pense.
C'est ça. Mais par exemple, la volatilité de l'électorat, est-ce qu'on ne peut pas y voir, quoi, moi, ce serait ce que j'y verrais spontanément, une sorte d'individualisme, une sorte de, comment dirais-je, d'électorat papillon qui se porte sur un parti, puis sur un autre, un peu à la demande, une sorte de politique de l'offre, quoi, et d'un certain consumérisme électoral.
Oui, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se dire que c'est plutôt le vote de masse qui aura été une exception historique. Quand on retrace à nouveau les formidables travaux, par exemple, de Peter Mayer ou de Stefano Bartolini, de très très grands politistes de notre époque, montrent qu'il y a eu un moment où il y a eu un vote de classe qui a aligné, simplifié finalement les formes de l'expression électorale, mais que ce moment aura été très court avant ça. Si on prend la Troisième, la Quatrième République en France, elles étaient très très morcelées. Mais c'est le cas dans la vie politique italienne aussi, c'est le cas certainement dans la vie politique belge où ça n'a jamais véritablement cessé. Et je ne prends même pas l'exemple extrême de nations comme Israël aujourd'hui. Donc c'est plutôt le fait que l'expression politique se soit traduite par presque une traduction automatique de la sociologie qui a été une exception et dont on porte un peu la nostalgie en se disant, ben voilà, il y avait les gaullistes et les communistes, ou comme disait Malraux, il y a eux, nous et rien, hein, pour faire simple. C'est plutôt, ce moment-là est plutôt l'exception. Avant ça, la politique a toujours été terriblement complexe. Il suffit de relire les lettres de Machiavel et d'essayer de comprendre la somme des intrigues qui se jouaient dans une république de 50 000 habitants à peu près, pour se souvenir combien la politique a en fait toujours été complexe.
Oui, mais vous n'êtes pas inquiet, par exemple, d'un phénomène comme l'abstention, qui semble être la conclusion de cette volatilité. C'est un désintérêt, et puis quand même une crise de la représentation des catégories de la population, et notamment les jeunes en France, je ne sais pas ce qu'il en sera en Belgique, se désintéressent de la politique dans ses formes traditionnelles, qui étaient celles de la représentation électorale et des institutions, des pouvoirs publics, comme on disait autrefois.
L'abstention m'inquiète en ce qu'elle reconstitue une forme de vote censitaire. On sait que l'abstention va toucher la plupart du temps les catégories sociales qui ont un capital socioculturel, pour utiliser l'expression consacrée, moins élevé. Et donc, de ce point de vue-là, elle va favoriser l'expression d'un vote de catégories sociales qui ont eu la chance de pouvoir faire des études plus longues. Et donc, elles vont aussi, dans la traduction de la représentation, créer un biais. Je pense que les dernières élections municipales françaises, par exemple, en sont un signe très marquant. Je crois qu'à l'intérieur de la gauche, la croissance du vote écologiste et l'affaiblissement du vote socialiste ou communiste est très largement expliquée par la croissance de l'abstention. Mais d'un autre côté, l'abstention, je ne crois pas non plus qu'il faille la voir comme une forme de passivité ou de retrait civique. L'abstention peut, il y a de nombreux travaux de sciences politiques qui l'ont montré, être aussi une forme d'expression politique. On ne va pas voter de manière tout à fait consciente et délibérée. C'est un acte de protestation. C'est un acte qui revient à délégitimer non pas la démocratie, mais la forme parlementaire et représentative que la démocratie a prise. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un signal de détresse qui est envoyé au personnel politique, qui doit l'entendre et qui doit réagir. Sinon, le politique risque de devenir, enfin, la représentation politique risque de devenir un théâtre sans spectateurs.
Oui, mais nous, on a eu en France la crise des Gilets jaunes. Je ne sais pas s'il y a un correspondant belge à la crise des Gilets jaunes, mais qui reste un phénomène qui est difficile à analyser et qui est extrêmement perturbant pour la politique, parce qu'on est partagé entre une légitimité de classe qui souffre d'un point de vue aussi bien géographique que des classes sociales elles-mêmes, qui souffrent, mais dont l'expression n'est pas productive, dont la violence, quoi, si on peut employer ce mot, on reparlera de la violence, mais dont les modes d'expression qui ne sont pas traditionnels, eh bien, ne débouchent pas ou ont beaucoup de mal à déboucher sur une construction de quelque chose, Paul Magnette.
On a eu aussi un phénomène de gilets jaunes en Belgique parce que, bon, les Belges regardent beaucoup les télévisions françaises et donc ça a eu un effet, ça a essaimé en quelque sorte vers la Belgique, en tout cas sur la partie francophone de la Belgique. C'était assez marquant d'ailleurs de voir que c'était beaucoup moins le cas dans la partie néerlandophone. J'ai rencontré à plusieurs reprises des manifestants inscrits dans le mouvement Gilets jaunes, et ça a été des conversations vraiment passionnantes parce que ça exprimait un désarroi social, mais ça exprimait aussi un désarroi politique. Ceux que j'ai rencontrés, alors bon, c'est toujours un échantillon un peu aléatoire, mais j'en ai rencontré à 3-4 reprises, exprimaient toujours ce même sentiment de ne pas être entendu. Et faisaient un lien très juste entre leur situation sociale difficile et le fait qu'ils n'étaient pas entendus. Et c'était un peu comme en France, des personnes qui ne sont ni de la classe ouvrière, qui n'étaient pas dans la fonction publique, qui n'étaient pas forcément dans la précarité la plus profonde, mais qui sont à la limite de la précarité et dont la vie est une survie permanente. Peut aussi bien être des petits indépendants qui avaient fait faillite et qui traînaient des dettes lointaines avec eux, que de jeunes salariés basculant de stage en stage ou de contrat précaire en contrat précaire, que des personnes ayant vécu un drame personnel qui affectait profondément leur situation sociale, des gens qui vivaient tous dans une profonde détresse et qui avaient le sentiment que la forme de détresse qu'ils vivaient n'était pas entendue, contrairement à d'autres qui étaient mieux relayés par les formations politiques. Donc ça nous dit aussi quelque chose de l'imperfection de notre système, et imperfection, le terme est faible, de notre système représentatif. Et je ne dirais pas tout à fait comme vous, Antoine Garapon, que ça n'a pas d'effet ou que ce n'est pas constructif. C'est peut-être, ça donne peut-être l'apparence d'un mouvement qui est anarchique, mais c'était beaucoup plus structuré qu'on en a le sentiment, avec même des mots d'ordre qui étaient très clairement repris pour le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, qui était donc une demande de démocratie. Et puis ça a quand même arrêté, ne fût-ce que dans le cas français, tout un train de réformes qui étaient précisément ceux auxquels ils s'opposaient. Donc ça a eu un effet positif sur le plan politique.
Mais alors, je me demande si, et là l'exemple belge est très intéressant, Paul Magnette, est-ce qu'il n'y a pas paradoxalement aussi une extension du politique à la vie personnelle et au drame personnel. Autrefois, la politique était réservée au domaine de l'idéologie, du destin de la nation. Ça a été très important en France au moment de la guerre d'Algérie, et puis débat sur l'Europe. Mais ce qui est frappant dans ce que vous venez de nous dire, et ce qu'on a constaté en France, et que j'ai remarqué personnellement dans l'affaire Dutroux, c'est que tout d'un coup, le malheur personnel, la mort d'un enfant, le fait divers, deviennent des événements politiques ou des événements qui doivent être politisés, pour lesquels le politique doit trouver une réponse.
Oui, effectivement. Alors, dans le cas de cette tragédie, de la disparition des deux petites filles, Julie et Mélissa, il y avait de très bonnes raisons que ce soit politisé, puisqu'il y avait, les enquêtes qui l'ont suivi l'ont démontré, eu de vrais dysfonctionnements dans le fonctionnement de la police et de la justice. Et donc ça a conduit d'ailleurs à de grandes réformes du fonctionnement de la justice et de la police. Ça a aussi provoqué une réaction très très large dans la société sur la prise de conscience de l'ampleur du phénomène de la pédophilie, par exemple. Bien au-delà du cas extrêmement pathologique de cette affaire Dutroux, ça a aussi servi de révélateur d'une série de drames humains qui jusque-là étaient complètement voilés par l'hypocrisie, par le malaise, par l'incapacité de les dire. Et donc des événements majeurs comme cela ont en effet cette vertu de faire émerger dans l'espace public des drames humains qui jusque-là étaient complètement passés sous silence. C'est la même chose avec des phénomènes comme MeToo, par exemple, ou le phénomène Black Lives Matter aujourd'hui.
Oui, mais le représentant du peuple que vous êtes, Paul Magnette, vous êtes élu, vous êtes maire d'une grande ville belge et vous êtes président d'un parti politique majeur en Belgique. Vous êtes représentant du peuple. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces nouvelles demandes ?
Alors, parfois, ça nous amène à réorienter des priorités politiques, et parfois c'est très très compliqué. Par exemple, quand je suis devenu maire de Charleroi, qui est une ville moyenne classique de 200 000 habitants, quand j'ai rencontré les forces de police, comme le fait tout chef d'un exécutif local toutes les semaines, au début j'étais très frappé par un phénomène que j'avais complètement sous-estimé, j'avoue jusque-là, qui est le problème des violences conjugales. Les policiers m'expliquaient qu'une intervention policière sur deux se déroulait en fait dans le cadre familial. On a toujours l'impression que le problème de l'insécurité, le problème de la violence, c'est des problèmes d'émeutes, de vols, de cambriolages, d'agressions dans les rues, etc. Or, la violence reste aussi et très souvent présente dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel ou dans le cadre de l'école, mais ne surgit pas dans l'espace public. Là, on peut agir dans ce cas-là, parce qu'on peut prendre des mesures préventives, des mesures de sensibilisation. On a formé les policiers aussi à l'accueil des victimes, on a développé des mécanismes d'accompagnement psychologique, etc. Donc il peut y avoir une réponse publique quand on découvre un phénomène comme celui-là. Dans d'autres cas, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quand on s'attaque par exemple aux inégalités sociales, on peut voir que la situation d'un homme ou d'une femme sur le plan social, sur le plan socio-économique, peut être beaucoup plus affectée par un divorce que par une perte d'emploi. Et là, on se sent très impuissant, parce qu'autant on peut essayer d'agir sur la politique économique, on peut essayer de réindustrialiser, on peut accompagner, développer l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les aider à retrouver un emploi. Par contre, je crois que le politique doit assumer et déclarer son impuissance quand un phénomène comme l'explosion des divorces, ce n'est pas à nous d'entrer à ce point dans le domaine de l'intime.
Et en même temps, il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande, et c'est là la question que je vous posais. Je fais lien avec la question précédente, c'est que dans les gilets jaunes, on pouvait imputer une partie des difficultés rencontrées par les gilets jaunes à des décisions personnelles, la décision d'habiter loin du centre-ville et de devoir prendre sa voiture, la décision du divorce. Et je n'accable personne, mais précisément, c'est là où cette extension du politique à des malheurs personnels ou à des choix de vie, finalement, à des choix de vie. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle configuration, une nouvelle attente et qui est piégeante, passez-moi l'expression, pour les représentants du peuple?
Oui, sauf que je dirais qu'il y a des choix de vie qui sont vraiment des choix de vie de l'ordre du personnel et même de l'intime. Et puis, il y a des choix de vie qui sont guidés par des choix politiques. Aller habiter dans une zone périurbaine, c'est le résultat de choix politiques. Quand les choix politiques consistent à urbaniser, à rendre possible l'urbanisation de ces zones périurbaines, à établir une fiscalité sur l'automobile qui finalement fait que se déplacer en voiture est accessible à une grande partie de la population, les choix politiques, les choix de fiscalité en particulier, ou les choix de politique salariale, mais aussi les choix d'aménagement du territoire, orientent les choix personnels. Alors que la question du divorce, la question des choix d'orientation sexuelle, etc., là, en revanche, sont vraiment des choix qui relèvent de la liberté personnelle au sens le plus strict.
Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza, mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento.
Esprit de Justice, toujours avec vous, Paul Magnette, à distance depuis la Belgique où vous habitez depuis Charleroi. Vous avez choisi de nous faire écouter cette chanson de Paolo Conte.
Oui, j'adore Paolo Conte depuis toujours. Je suis un grand amoureux de l'Italie et j'adore le jazz. Et donc, c'est difficile de ne pas aimer ce grand musicien, ce grand auteur, ce grand mélodiste qui est Paolo Conte. Je l'ai vu souvent en concert en plus et c'est toujours un spectacle fabuleux.
Una verde frontiera tra il suonare e l'amare.
Mais alors, il y a une cette question, il y a un mot qui s'impose dans le débat politique français, c'est celui de séparatisme, et qui préoccupe beaucoup. Vous connaissez la France et ses démons de la laïcité, j'allais dire le démon de l'unité, d'une unité culturelle de la communauté politique, et se pose la question du séparatisme. Alors j'aimerais vous entendre, vous, Paul Magnette, à la fois en tant qu'intellectuel, que philosophe politique, et en même temps de votre expérience de cette modification en profondeur, finalement, de la composition politique du socius.
J'ai d'abord trouvé assez amusant que ce terme séparatisme fasse soudainement irruption dans le débat politique français, parce que c'est un mot du vocabulaire politique belge courant depuis toujours, puisque dans notre histoire communautaire complexe, ce pays bilingue, trilingue, multilingue, avec des communautés linguistiques et des conflits entre ces communautés linguistiques qui ont rythmé la vie politique depuis toujours. Le séparatisme, ça décrit la tentation de mettre fin à la Belgique, tout simplement, et de la diviser en nations différentes.
Donc, véritablement existentiel.
Voilà, c'est vraiment existentiel, c'est un débat permanent, et c'est un peu comme ces couples qui menacent sans cesse de se séparer, mais dont finalement la menace constamment brandie de séparation sert peut-être de ciment aussi. Ça, nous le vivons. Mais dans le cas français, ce qui m'a paru particulier, c'est que la manière dont c'est exprimé apparaît un peu comme une forme de condamnation, et pratiquement de condamnation morale. C'est un peu comme si on accusait par avance certains de ne pas être vraiment du corps de la nation, et de leur faire le reproche d'une tentative de sécession. Or, s'il y a une forme de séparatisme et je ne veux pas faire de procès de mes grands voisins français dont je suis un grand admirateur, mais enfin quand même je l'observe avec un tout petit peu de distance, s'il y a une forme de séparatisme qui m'a beaucoup frappé dans la vie politique française, c'est celle des élites. C'est vraiment un phénomène qu'on trouve certainement aussi en Angleterre, dans une moindre mesure aux États-Unis, mais qu'on trouve beaucoup moins ailleurs. C'est quelque chose qui est très frappant de voir combien les...
Et comment vous le caractérisez, ce séparatisme des élites françaises?
C'est le fait d'une vie des élites, et je ne veux pas toutes les mettre dans le même sac, mais qui vit un peu hors sol, qui vit dans un monde d'entre-soi, séparé du reste de la nation. Ça fait longtemps que les plus riches ont fait séparation dans la société française, qu'ils se sont organisés avec un monde à eux, avec une espèce de résidu aristocratique, si on peut dire, qui reste profondément ancré dans la culture sociale, mais aussi dans la culture politique française.
C'est ça. Concrètement, comment vous le caractérisez? Parce que nous, bien sûr, nous autres Français, on ne le ressent pas par définition, parce que c'est un problème, c'est comme un symptôme avant qu'il ne vous fasse souffrir. On sent qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. Comment est-ce que vous caractériseriez cette sorte de séparation, de sécessionnisme des élites françaises? Parce qu'au contraire, on a l'impression que la France valorise le bien commun, une sorte de culture partagée par tous.
Mais c'est très très profondément inscrit, je dirais, dans toutes les structures de la société française. C'est inscrit dans une stratification territoriale qui est très très marquée. Il y a les quartiers privilégiés et les quartiers délaissés, voire totalement abandonnés ou semi-abandonnés. Ça se marque dans l'organisation de l'enseignement. On a certes le culte de l'école de la République, mais c'est par exemple un des seuls pays au monde où on a l'université d'un côté et les grandes écoles de l'autre, avec des filières très marquées. Ça se marque dans l'organisation du monde professionnel. Ça se marque aussi dans la nature d'un personnel politique qui est moins enraciné dans ses terroirs que c'est le cas dans la plupart des autres démocraties parlementaires. Ça se marque aussi dans une forme d'aller-retour entre le monde du politique et le monde de l'économie et de la finance. Et ça se marque aussi dans des formes de complicité entre le monde des médias et les élites politiques et économiques. Tout ça sont des phénomènes très très français et qu'on ne retrouve pas, je le répète, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou dans d'autres nations européennes.
Ça expliquerait pourquoi en France cette question du communautarisme et d'expression, je pense à une expression qui personnellement m'interpelle, me préoccupe, celle de privilège blanc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour une première fois en France, il y a une force spirituelle pour le coup qui est capable d'encadrer ce séparatisme et qui nous renvoie la douleur du symptôme et Et quelle est votre réaction, vous, Paul Magnette, à cette manière de théoriser le mauvais centralisme de la culture européenne et de la culture blanche, y compris au sein de nos propres pays?
Mais j'ai d'abord été très sceptique à l'égard de cette expression de privilège blanc, parce que je la trouvais excessive. On ne peut pas dire qu'il y ait de privilège au sens où, d'un point de vue juridique, il est incontestable que le système promeut et protège l'égalité et qu'on est sorti des privilèges. Mais en y réfléchissant et en discutant en particulier avec des jeunes et avec des jeunes issus de l'immigration notamment, je comprends mieux qu'on le formule comme ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'image que la société française, mais de ce point de vue la société belge ne fait pas beaucoup mieux, je dois le reconnaître, un petit peu mieux mais pas beaucoup mieux, on doit quand même constater que toutes les hautes fonctions de la société, ou pratiquement toutes, sont occupées par des personnes qui sont issues depuis de nombreuses générations du groupe sociologique et même du groupe ethnique majoritaire. Et donc, je peux comprendre que quand on est un jeune d'origine maghrébine, par exemple, d'origine turque ou d'origine d'Afrique subsaharienne, et qu'on regarde le personnel politique, le CAC 40, un peu tous les milieux, on se dise « mais où est ma place ?» Est-ce qu'il n'y a que dans le domaine du sport et peut-être de la culture qu'on a des chances de connaître encore une promotion sociale? Est-ce que les lieux du pouvoir ne sont pas réservés finalement? Mais ils ne le sont pas formellement, bien entendu, mais toute une mécanique de réseau de pouvoir, de jeux réputationnels, de relations interpersonnelles, de systèmes médiatiques fait que finalement toute une série de fonctions reste inaccessible à des personnes qui ne sont pas dans le groupe social et même ethnique majoritaire.
Comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça, Paul Magnette? Est-ce que vous avez une solution belge? Et comment est-ce que, parce que votre diagnostic est cruel pour la France, qui, je crois, qui a mis du temps à s'en rendre compte. Mais comment est-ce qu'on peut refonder? Alors, je m'adresse autant à l'expérience politique qu'est la vôtre que à votre connaissance de la science politique. Comment est-ce qu'on peut refonder un pacte politique, parce que finalement c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien là le défi, alors que si quelque chose nous apprend, si la philosophie politique apprend quelque chose, c'est qu'on parle sans cesse d'un pacte qui n'a jamais eu lieu. Comment le reconstruire?
Je pense qu'il faut revenir à la distinction que Marx faisait entre les droits réels et les droits formels, ou la liberté formelle et la liberté réelle. Il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme, il ne suffit pas de proclamer l'égalité, il ne suffit pas de proclamer que l'État est laïque, etc. Parce que dans les faits, et vous évoquiez Antoine Garapon tout à l'heure Tocqueville, dans les faits, la démocratie, c'est pas seulement un système formel et un système institutionnel, c'est aussi un État social. Tocqueville avait infiniment raison de le souligner de ce point de vue-là. Dans les faits, la démocratie n'a pas suivi dans la réalité de ses structures sociales les promesses qu'elle prétend poser sur le plan formel. Et donc, ça ne peut se corriger que de manière volontariste, ça ne se fera pas tout seul. Alors ça se corrige par la volonté du personnel politique lui-même de s'ouvrir, on l'a vu avec la féminisation du personnel politique, chaque formation
qui a marché,
enfin on n'y est pas encore tout à fait, on attend encore une présidente de la République et on espère que ce ne soit pas une candidate en cours.
Non, c'est ça.
Vous pouvez me permettre d'exprimer une préférence politique. Mais il y a quand même encore beaucoup beaucoup de fonctions qui n'ont pas été féminisées, et on se souvient que l'expérience d'Edith Cresson, par exemple, avait été l'occasion d'un déferlement de misogynie primaire. Hein, donc ça reste quand même quelque chose de pas si évident que ça. Ce parcours encore tout à fait inabouti pour les femmes, il est encore plus inabouti pour ce qui est de la représentation de la sociologie de ce qu'est la France ou de ce qu'est la Belgique. Et ce sont des choix politiques. C'est des choix quand on est chef d'un parti, par exemple. Eh bien, on a la faculté de placer à des fonctions éligibles dans des circonscriptions qu'on peut gagner ou sur des places éligibles dans les systèmes proportionnels des personnes issues d'immigration. Moi, je l'ai toujours fait, et parce que je pense important que ceux qui nous représentent dans les différentes instances, j'ai une détestation profonde pour cette expression de pays réel et pays légal, mais qui est quand même une meilleure adéquation entre ce que la représentation politique renvoie comme image et la réalité sociologique de la nation.
Et Paul Magnette, est-ce que, alors vous avez parlé du Parti Socialiste belge dont vous êtes le président, et j'ai envie de vous poser la question de manière un peu abrupte, vous pourrez bien m'en excuser, est-ce qu'il a encore un avenir? Quel est l'avenir du socialisme aujourd'hui dans des questions aussi brûlantes que celles que nous venons d'aborder? Le socialisme, c'est une manière de vivre, c'est une manière de produire, mais a priori, il est aveugle aux différences de couleurs.
Je crois que socialisme, c'est beaucoup plus que ça mériterait une émission en elle-même, beaucoup oui. plus que simplement une manière de vivre et de produire. Il y a des socialismes et il y a un patrimoine extrêmement riche de différents socialismes. Et je crois que le moment est venu, et dès que j'en aurai le temps, j'essaierai d'écrire un peu sur le sujet de l'éco-socialisme, de retrouver le socialisme pré-marxiste ou pré-marxien, ce socialisme que Marx évacuait un petit peu rapidement dans ses écrits.
Celui de Proudhon. Celui
de Proudhon, plus encore, je dirais, celui de Fourier, celui de Robert Owen dans oui. la tradition anglaise, c'est-à-dire le tout premier socialisme qui ne prétendait pas être une science de l'économie, qui ne prétendait pas être une science de l'histoire, qui prétendait que face à la société individualiste, face à la société qui, face à un système économique qui écrase le lien social, il faut rétablir la valeur de la collaboration, de la coopération, de la solidarité. Ça a pris des formes sociologiquement, historiquement, très différentes, mais ce que le socialisme a d'universel, je dirais, c'est vraiment et là c'est surtout Karl Polanyi, ce grand historien qui l'a bien montré, c'est que c'est une forme de résistance de la société contre la logique froide et abstraite du capital ou de la société de marché.
Vous avez
ça reste d'une très très grande actualité,
oui,
je crois.
Très grande actualité, mais vous avez employé un mot qui est surprenant, quoi, du moins pour un Français. Vous avez dit, dans un article fameux qui a fait du bruit, publié dans Le Soir, le socialisme un engagement spirituel. Paul
oui, mais c'est Jaurès. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que Jaurès redit que le socialisme, dit à cette époque-là, le socialisme n'est pas seulement une certaine vision de l'histoire, n'est pas seulement une certaine forme d'organisation de la société et de la démocratie, c'est aussi un état moral. Et il est impossible de construire le socialisme sans construire en même temps l'état moral qui l'accompagne. Et je crois que c'est Marc Bloch qui disait quelque part « Malheur aux révolutionnaires qui n'ont pas préparé les esprits et les mœurs à la société qui sera issue de la révolution ». Et donc aucun système aussi ou une pensée aussi ambitieuse que le socialisme, parce que je pense que c'est une pensée très très ambitieuse, et c'est pour ça je crois qu'elle a un très très grand avenir, doit réfléchir aussi aux conditions morales qui rendent une organisation de la société qui n'est pas basée sur le tout à l'individu, la concurrence, la compétition effrénée, possible et non seulement possible mais aussi désirable.
Ce qui est surprenant quand on voit votre bibliographie, Paul Magnette, c'est que on voit, vous êtes socialiste, vous avez parlé de Marx, pour en dire pas du mal, mais pour dire qu'il fallait le dépasser, et on voit également que vos auteurs de référence, je pense à Tocqueville, je pense à Judith Sklar, peut-être même Machiavel, ce n'étaient pas des gens qui pratiquaient la théorie de la domination, ce sont plutôt des gens classés comme libéraux. Et donc on voit cette curieuse association, j'aimerais que vous nous disiez un mot, entre le socialisme et le libéralisme, un certain libéralisme.
Je n'avais jamais fait le rapprochement entre ma fascination pour Machiavel, Judith Sklar et Tocqueville, et pas sous l'angle de la domination, mais c'est une manière, je pense, effectivement intéressante de voir les choses. Je crois que le point commun entre ces trois auteurs, c'est une certaine théorie du conflit. Certainement chez Machiavel, la contribution immense et éternelle de Machiavel à la théorie de la politique, ce n'est pas ses conseils au prince sur la dissimulation et le mensonge et la ruse, mais c'est cette idée que la liberté ne peut naître que du conflit. Toute l'analyse qu'il fait de la Genèse et de la force de la République romaine consiste à montrer que là où les hommes de la Renaissance traditionnelle voient dans Rome un tumulte politique permanent qu'il ne faut que condamner, Machiavel dit au contraire, c'est ce tumulte, c'est ce conflit qui a fait naître les institutions républicaines et qui les a constamment perfectionnées. Et donc le conflit, il a une immense vertu. Et tout l'art de la politique, c'est de faire que le conflit serve à construire construire la paix civile et la stabilité. On retrouve un peu ça chez Tocqueville aussi, qui est effrayé par l'incapacité de la France à se stabiliser après ses révolutions, ses restaurations, etc. Et qui cherche finalement dans sa sociologie de la démocratie à construire une démocratie qui soit pas seulement un système institutionnel, mais un véritable état social dans lequel le conflit trouve un exutoire positif. Comment réconcilier la liberté et cette forme de conflictualité indispensable.
Et chez Judith Sklar, on trouve cette idée aussi minimale du libéralisme, le libéralisme de la peur, qui est un livre qui vous a beaucoup inspiré, Paul Magnette, c'est-à-dire un libéralisme qui préserve des maux extrêmes que sont la cruauté ou le totalitarisme, qu'avait connu d'ailleurs Judith Sklar.
Oui, ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Judith Sklar, qui est une femme d'origine juive exilée, qui a vécu toutes les tragédies du XXe siècle, aussi bien celle du communisme que celle du nazisme, comme beaucoup d'autres très grands penseurs de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est qu'elle est revenue de toutes les illusions, et qu'elle a vu même tous les drames que l'utopie portée à son extrême, l'utopie organisée, pouvait contribuer à construire, et que malgré ça, elle cherche encore un fondement. Elle cherche encore un fondement à un humanisme. Son libéralisme est presque un socialisme inavoué, puisqu'elle part de présupposés libéraux qui sont ultra dominants dans la société américaine des années 60-70, un peu comme John Rawls, mais pour construire finalement une théorie de la... Enfin, c'est pas une vraie théorie de la société, mais pour construire en tout cas une vision de la politique qui plaide beaucoup plus loin pour l'égalité des droits, pour l'égalité des droits civiques, pour la lutte contre les injustices sociales. Et tout le génie de sa démarche, c'est de partir de presque rien. C'est-à-dire, il ne faut pas postuler l'homme bon, il ne faut pas postuler une forme supérieure d'organisation sociale, il suffit de se rappeler que l'homme d'abord est un être d'émotion, un être de sensation, et que la sensation que nous éprouvons dès la naissance et qui nous guide tout au long de la vie, c'est la peur.
Oui, et d'échapper à la victimité.
Et donc, comment échapper à la peur? Eh bien, en établissant l'état de droit, la démocratie, et en continuant à améliorer, à approfondir ce système, en faisant droit à une reconnaissance, à ces demandes de reconnaissance, d'une part, et à la justice sociale, d'autre part.
Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu, parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant, tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer, tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi, et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes, je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.
France Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours avec vous, Paul Magnette, président du Parti socialiste belge, co-formateur du dernier gouvernement et maire de Charleroi, et qui avait choisi de nous faire entendre cette magnifique chanson de Serge Gainsbourg, parce que...
Oui, je la trouve, chaque fois que je l'entends, elle m'émeut beaucoup. C'est une chanson d'Aznavour à la base, mais là où Aznavour la chante avec des trémolos dans la voix accompagnée d'un grand orchestre, Gainsbourg a sabré la moitié des couplets, il susurre à peine le texte en égratignant un petit peu la mélodie, et il s'accompagne d'accords extrêmement simples au piano. Et c'est tout Gainsbourg, c'est ce génie de l'épure, de la simplicité. Voilà, et Gainsbourg est le grand héros de mon adolescence, et donc voilà, cette chanson est particulièrement belle, je trouve.
Vous êtes intéressé aussi, c'est singulier pour un homme politique et pour un politologue, à Pasolini.
Oui, Pasolini, c'était... j'ai longtemps hésité entre étudier la littérature, les romans, ou étudier les sciences politiques. Et donc, quand j'ai fait mon travail de fin d'études, j'ai essayé de trouver un terrain qui soit à la frontière de la littérature et de la politique. Et Pasolini était aussi un auteur, un poète et un cinéaste, et un théoricien de la littérature, et un formidable éditorialiste qui m'avait toujours fasciné. Donc j'ai consacré effectivement mon mémoire de fin d'études à Pasolini, et je continue à lire tout ce qui s'écrit sur Pasolini, et de temps en temps à écrire un petit article.
Alors, vous êtes aussi connu en Belgique et en Europe, je dois le dire, pour votre opposition, l'opposition que vous avez formulée vigoureusement contre le CETA, le traité d'association de libre-échange avec le Canada. Et donc, ça m'amène à parler d'un autre de vos centres d'intérêt, parce que vous êtes belge et bruxellois d'occasion au moins pour l'enseignement, qui est bien sûr le thème de l'Europe. L'Europe, parce que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain, insécure, violent, inquiétant. Et j'aimerais avoir votre position sur l'Europe, une Europe qui semble d'ailleurs ces derniers mois reprendre du poil de la bête.
Oui, je pense qu'elle reprend vraiment vigueur. Et moi qui avais un peu perdu tout espoir dans cette formidable aventure de la construction de l'Europe, je suis en train d'en retrouver. Et je trouve qu'Ursula von der Leyen, qui, à l'égard de qui je n'avais aucun jugement a priori, est en train de prendre une étoffe politique assez remarquable. C'est un peu le depuis Jacques Delors, je pense le leader européen le plus important à la tête de la Commission européenne. L'Europe, c'est d'abord c'est cette phrase formidable de Braudel dans La grammaire des civilisations qui rappelle qu'à tout moment le politique a eu un temps de retard sur les forces matérielles. Le commerce a commencé à s'organiser au-delà des cités avant que les cités s'organisent, et les cités ont été obligées de former des ligues de cités, et puis ensuite l'État est apparu avec un temps de retard là aussi sur la construction des marchés nationaux. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec l'Europe. La réalité de l'économie et la réalité de l'évolution sociale s'est faite avant que le politique suive. Et donc, c'est un peu une logique de rattrapage, la construction de l'Europe. C'est reconstruire une souveraineté qui soit à la hauteur des véritables défis. Jamais aucune nation, aussi forte, aussi ambitieuse soit-elle, ne pourra seule être à la hauteur du défi du réchauffement climatique, lutter contre la fraude fiscale, apporter une réponse satisfaisante aux phénomènes migratoires. Et donc, seule l'Europe a le poids politique potentiel pour le faire. Elle l'avait longtemps négligé, elle est en train de le reconstruire.
Est-ce qu'il y a une femme politique, Marie-Françoise Garraud, qui a dit une fois une expression qui m'a beaucoup frappé en disant « L'Europe, c'est un empire qui se cherche ».
Non, je trouve que ça n'a rien à voir avec le phénomène impérial, l'Europe, Antoine Grappon. Au contraire, l'Europe, c'est l'anti-empire. L'empire, c'est par définition un système politique qui s'impose du haut sur toute une série d'entités qui ne peuvent que la subir. Et c'est un phénomène qui est en plus... la plupart du temps à visée expansionniste, alors que l'Europe, personne n'a forcé la France et l'Allemagne à se réconcilier, personne n'a forcé les pays du Benelux et l'Italie à se joindre à ces deux grandes nations et à décider de construire un projet politique commun. C'est vraiment quelque chose qui est né de la volonté de ces nations qui avaient tiré les leçons de leurs erreurs.
Oui,
donc
oui,
c'est un processus par essence anti-impérial.
Oui, oui, mais Paul Magnette, si on veut que l'Europe joue un rôle entre la Chine et les États-Unis dans le monde de demain, il faut une Europe puissance, il faut une Europe qui ait les moyens d'alourdir sa parole, comme sur la scène internationale, comme sur la scène intérieure, que quand elle dit quelque chose, eh bien, ça a du poids. Or, pour l'instant, on entend la parole de plus en plus, vous le disiez, on cherche encore le poids qu'il y a derrière.
Mais l'Europe est une puissance civile, comme le disait justement Raymond Aron. Donc c'est pas encore vraiment une puissance militaire aujourd'hui, c'est vrai, ça l'est encore moins après le Brexit. Mais c'est une puissance civile dont il ne faut pas négliger l'influence. J'ai été ministre du climat et de l'énergie pendant quelques années. J'ai participé à toutes les grandes conférences climatiques internationales. Je peux vous assurer que l'Europe était entendue dans ces forums multilatéraux au sein desquels 200 nations étaient représentées, et que tout le mouvement, l'Europe a pris très largement le leadership mondial dans la question de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est certainement le plus grand défi qui s'impose à nous en cette époque. Et aujourd'hui, avec le Green Deal, et aujourd'hui avec une série d'initiatives comme celle-là, l'Europe est en train de matérialiser ce leadership là où les États-Unis, en sortant des accords de Paris, se sont complètement marginalisés. Donc ces enjeux-là, ces enjeux qui paraissent peut-être moins spectaculaires que des interventions militaires, ils sont absolument fondamentaux, et sur ces enjeux-là, l'Europe est extrêmement présente. Il lui manque d'être, je crois, et ça c'est le grand défi des prochaines années, d'être une vraie force de régulation du capitalisme et de cette forme financiarisée de capitalisme qui s'est imposée aujourd'hui. Mais pour ça, elle doit commencer à mettre de l'ordre à l'intérieur. Et quand j'ai entendu la semaine dernière que, à nouveau, l'exécutif européen allait s'attaquer aux paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne, en disant finalement les pays qui pratiquent une forme de dumping fiscal, on peut considérer ça comme une concurrence déloyale à l'égard des autres, ils contribuent à ce que les multinationales ne payent pas leur juste part à l'impôt, eh bien en s'attaquant à ça, elle peut mettre de l'ordre à ces tensions internes, et à partir de là être une voix qui porte au sein du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Je crois que le monde a besoin d'un nouveau Bretton Woods, de nouvelles règles financières mondiales, surtout après la crise que le Covid va provoquer un petit peu partout, et que l'Europe a là aussi un rôle à jouer. Mais elle ne peut pas être crédible sur la scène internationale si elle n'est pas d'abord crédible sur le plan interne.
Alors vous disiez, Paul Magnette, à l'instant que l'écologie est un défi majeur. Vous êtes, et c'est au professeur de sciences politiques que je m'adresse, est-ce qu'elle a trouvé ses auteurs? Est-ce qu'elle a trouvé ses références intellectuelles, l'écologie aujourd'hui?
Je crois qu'elle est en train de les trouver, Antoine Garapon. Pas tout à fait, mais elle est en train de les trouver. Il y avait une très belle série dans le journal Le Monde cet été qui faisait un peu l'inventaire d'une forme de nouvelle French theory, on pourrait dire presque. C'est quand même autour de Bruno Latour, de Philippe Descola, d'une belge francophone comme Isabelle Stengers, qu'on voit quelque chose comme un nouveau paradigme qui est en train d'émerger et qui génère des travaux de recherche chez de jeunes chercheurs en sciences sociales, en philosophie politique, en sciences politiques, qui sont extrêmement intéressants. J'ai lu récemment le livre de Pascal Charbonnier, Liberté et Abondance, par exemple, que je trouve une contribution théorique très importante, les travaux de Serge Audier, etc. Donc la France, d'ailleurs, les sciences sociales françaises sont en train de reprendre une forme d'ascendant dans ce domaine et de refonder on ne devrait même pas parler d'écologie politique, mais de refonder une pensée politique de la nature, plus fondamentalement, et de la place de l'homme dans la nature, qui est sur le plan théorique ce qui se produit de plus innovant ces derniers temps, et en plus qui est absolument essentiel sur le plan politique.
Oui, alors dans l'écologie politique, il y a toujours cette tension thématisée schématiquement sur la fin du monde ou la fin du mois, c'est-à-dire cette tension entre l'économie et la satisfaction ce qu'on voit en France sur le récent débat sur le glyphosate, c'est-à-dire cette tension entre les nécessités, l'impératif économique et sur le court terme, le très court terme même, et puis la préservation de la planète sur le très long terme. Et en tant que maire de Charleroi, vous avez beaucoup œuvré, Paul Magnette, je pense à l'initiative Nature en Ville, ou bien alors ce que vous avez fait pour le printemps de l'environnement. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ce qui me semble être ce défi majeur qui attend la politique, c'est-à-dire d'arbitrer entre les nécessités de préserver une économie dynamique avec ce que ça entraîne de sacrifices parfois de l'écologie et l'impératif majeur de la préservation de l'environnement?
Alors je crois d'abord que sur le plan des principes, il faut sortir de l'idée qu'on doit concilier ou qu'on doit compenser une logique par l'autre, mais se dire qu'en fait ce sont deux injustices et ce sont deux limites du système capitaliste qui sont consubstantielles et qu'en s'attaquant à l'une, on s'attaque à l'autre. C'est là que je crois vraiment beaucoup en un écosocialisme qui doit encore se construire sur le plan théorique, mais qui a déjà des bases assez solides. Finalement, il y a des travaux de toute une série de penseurs américains qui ont montré que chez Marx déjà on trouvait cette idée que le capitalisme écrase et l'homme et la nature, les deux à la fois. Et puis Marx a un peu laissé tomber la nature pour se consacrer à l'homme. Mais un penseur comme Karl Polanyi à son tour a montré comment le capitalisme écrasait la société mais aussi l'homme et la nature. Et donc il y a dans ses fondements, et si on remonte à Robert Owen ou à Fourier, on voit que cette sensibilité pour la nature, Serge Audier en particulier l'a très bien montré, elle était extrêmement présente. Et donc le socialisme a eu un long âge productiviste qui doit se fermer, une parenthèse qui doit se fermer, et doit rétablir une pensée de la justice qui remette la question du rapport de l'homme à la nature et du rapport des hommes entre eux sur le même pied et dans le même mouvement. Ça, je pense que c'est un glissement théorique qui doit complètement s'accomplir. Et puis après, sur le plan pratique, c'est finalement assez simple à régler. Quand vous isolez énergétiquement des logements sociaux, vous faites du bien à la nature, vous faites du bien aux gens, vous créez de l'emploi. Enfin, c'est une espèce d'évidence. Quand vous investissez dans les logements publics, quand vous investissez dans les transports publics, vous faites du bien à la nature, vous faites du bien à la convivialité, parce que vous retrouvez des gens d'origine sociale diverse qui se retrouvent dans le même métro, ou dans le même bus, ou dans le même tram. Quand vous construisez des cantines publiques avec de l'alimentation bio et locale, vous faites du bien à la nature, vous faites du bien à l'agriculture locale, vous faites du bien à la santé des enfants ou des patients des hôpitaux, et vous créez de l'emploi. Donc c'est assez facile à faire sur le plan concret. C'est ça qui est assez frappant, c'est que il y a une forme d'éco-socialisme qui se construit dans les faits, mais qui n'a pas encore complètement trouvé sa théorie.
Alors, Paul Magnette, cette émission arrive proche de son terme, et je voudrais que vous puissiez formuler, alors rêver un peu, c'est pas tellement la fonction d'un professeur de sciences politiques, mais peut-être même pas d'un politique, que vous rêviez, quels seraient vos vœux pour la Belgique, pour l'Europe, pour le monde de demain?
J'ai l'espoir d'un certain apaisement, d'une certaine sérénité, parce que on a quand même vécu un cycle politique marqué par les Salvini, les Johnson, les Trump, les Bolsonaro, mais aussi chez nous, on l'a vécu également en Belgique, une forme d'irruption d'une violence verbale, d'une politique très négative, d'une politique très stigmatisante à l'égard de certains groupes ethniques ou de certains groupes sociaux, qui a été une brutalisation de la politique ces dernières années. Or, on voit que Johnson s'enlise, on espère que Trump soit battu, on espère que Marine Le Pen le soit aussi par un bon candidat de gauche. On voit que Salvini n'arrive pas à redécoller politiquement. Et en Belgique, on voit aussi que les nationalistes et les séparatistes sont aujourd'hui un peu mis à l'écart. On est parvenu à faire un gouvernement de centre-gauche, progressiste, paritaire, respectueux des différences, qui s'engage à lutter contre les discriminations. Donc j'ai l'espoir, mais peut-être suis-je, ma femme me dit toujours que je suis désespérément optimiste, j'ai l'espoir que ce moment populiste très brutal ait été une parenthèse utile, certainement, parce que ça a obligé les autres représentants politiques à se remettre en question et à changer et leurs priorités et leur manière d'être, et qu'on revienne à une politique plus sereine, plus respectueuse, plus accueillante des différences, qui s'attaque plus sincèrement aux discriminations, mais dans un respect mutuel.
Eh bien, nous resterons sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Paul Magnette.
Merci beaucoup, Antoine Garapon.
Esprit de justice, Paul Magnette, Bernard Laniel, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.